Bonsoir et bienvenue dans Onde Noire, l'émission polar la plus rock de la bande FM.
Bonsoir à tous et bonsoir Jacques.
Bonsoir Corinne.
Et bien aujourd'hui dans cette émission, nous allons vous emmener aux quatre coins de la planète. Quatre coins, c'est vraiment le cas de le dire, puisque nous allons vous parler de quatre romans. Et Jacques, et bien je vais te laisser la parole pour nous emmener.
Et bien nous allons commencer par faire un tour dans les pays baltes, plus précisément à Tallinn, qui est la capitale de...
Bon, c'est un pays balte, tu viens de le dire. Alors, j'hésite, Estonie, Lettonie, Estonie.
Estonie, eh oui. Et on va y retrouver, donc, à Tallinn, le commissaire Marko Kurisma, ou Kurisme, parce que ça s'écrit avec deux A, donc, bon, on va dire Kurisma, ça sera plus simple. Le flic créé par Arno Saar, c'est donc l'auteur. Le roman est publié par les éditions La Fosse aux Ours, et il est traduit de l'italien par Patrick Vigetti.
Alors, il y a quelque chose que je ne comprends pas vraiment, parce que tu viens de parler d'un roman qui se passe en Estonie, un nom d'auteur à Arno Saar qui fait quand même qui sonne un peu balte, enfin tout au moins. Et c'est traduit de l'italien ?
Oui, parce qu'en fait, Arno Saar, c'est le pseudo de l'universitaire et du romancier Alessandro Pericinotto, dont on a évoqué quelques livres dans cette émission, et surtout, à mon juge. À l'époque où il était sorti en série.
Oui, à mon juge, qui était le premier roman épistolaire que l'on lisait. C'est-à-dire que c'était un échange de mails entre quelqu'un en fuite et son juge. Et ça, c'était un très bel hommage à un roman de Georges Simenon, si je ne m'abuse, qui s'appelait Lettre à mon juge.
Voilà, dont Alessandro Pericinotto est un spécialiste italien. Donc, ce roman s'appelle « La neige sous la neige ». En italien, la neve sotto la neve. Et en estonien, je ne sais pas.
De toute façon, tu ne saurais pas le prononcer, ce n'est pas la peine. Hein.
Donc au début de ce roman, une jeune femme est retrouvée morte, presque nue, juste un string, allongée sur un vieux canapé, sous une épaisse couche de neige. Dans un quartier plutôt mal famé, réservé habituellement au squat et au trafic de drogue. Pas vraiment le lieu d'une soirée romantique qui aurait mal fini. C'est un peu ce que se dit le commissaire... Kurisma. La neige ne cesse de tomber, c'est idéal pour brouiller les pistes. Mais le flic se souvient que sous la neige, il y a la neige qui, elle, a conservé les indices.
Sous la neige, il y a la neige. C'est pas tout à fait très net, hein, très clair.
Oui, c'est-à-dire évidemment, ici, dans nos contrées méditerranéennes, on a un peu de mal à imaginer une couche de neige. Donc, une couche de neige, un léger redoux et une autre couche de neige... C'est presque impossible, surtout avec le réchauffement climatique qui arrive, enfin qui est même déjà là. Mais en Estonie, c'est fréquent. Et en fait, donc la première couche de neige se tasse, et la deuxième la recouvre, et du coup les indices restent...
C'est comme les carottes dans les pays arctiques et antarctiques où on peut trouver les climats anciens.
C'est un peu l'idée. Et donc, ils vont trouver suffisamment d'éléments pour lancer leur enquête. Et le commissaire va enquêter avec l'inspecteur Loop. Christina Loop, elle est de la scientifique. C'est une belle jeune femme d'une quarantaine d'années, qui est un peu plus qu'une collègue de travail pour Kurisma. Ceux qui ont lu le premier roman d'Arno Saar, qui s'appelait Le train pour Tallinn, le savent déjà. Les autres, qui attaqueraient ce roman seulement maintenant, ils devinent très vite. De toute façon, c'est très vite dit. Et même si les deux amants flics restent très discrets sur leur relation extra-boulot, ils sont quand même repérés par certains. Les premiers indices, puisqu'on va plutôt parler quand même de l'enquête, les premiers indices les mèneront vers un réseau de prostitution biélorusse. Évidemment, tous les ex-satellites, c'est comme ça qu'on les appelait, de la Russie, n'ont pas eu le même développement. Et ici, comme ailleurs, c'est les plus pauvres qui fournissent aux plus riches ou un peu moins pauvres. Entre deux bons repas, deux bonnes dégustations de vodka, je rappelle qu'on est dans les pays baltes, et deux soirées intimes, le couple de policiers va tenter de retrouver le ou les assassins. Le commissaire est toujours sujet à ces crises de narcolepsie. C'est une des caractéristiques de ce flic. Une étrange maladie qui peut le faire s'endormir sur un coin de table au milieu d'une discussion. L'avantage, c'est que cela nous change un peu des flics déprimés, désabusés ou alcooliques.
Ceci dit, un flic qui dort, il n'avance pas beaucoup dans son enquête. Hein. Ouais,
enfin, il fait tout dans l'enquête pour ne pas s'endormir, mais malgré tout, il y a des moments où ça finit par arriver.
La narcolepsie, c'est ça.
Voilà, il se soigne, mais ça ne marche pas tout le temps. Et le lecteur, derrière les pages du livre, va découvrir un peu plus, un peu mieux, ce pays européen, mais quand même un pays un peu lointain. La description de la ville, la description de la vieille ville, des bords de mer, même en hiver, donne presque immédiatement envie de prendre un billet sur Air Baltique.
En ce moment, c'est peut-être pas la peine.
Hein. Bon, ce sera peut-être pas le moment, mais bon, pour plus tard. On découvre aussi une société qui est passée d'un coup de l'URSS au libéralisme débridé, disons. Ce qui ne va pas sans quelques soucis, d'autant que les apparatchiks sont restés pour beaucoup au pouvoir. Juste un simple changement de cravate, disons. Arnaud Sarr nous raconte et en fait nous fait remarquer que l'influence de l'Union soviétique est encore bien présente en Estonie. Elle est même tenace chez certains qui ne parlent que russe, par exemple. D'un autre côté, la haine envers ces soviétiques, enfin ces russes, est très très prégnante, car il faut se souvenir que la répression des services secrets, le fameux KGB, n'est pas du tout une légende urbaine. Et le KGB, en fait, est plutôt un mot oni.
D'où un roman très noir.
Certes, c'est un roman noir. Au départ, en fait, ça commence comme un roman policier classique, avec les différentes étapes de l'enquête, même un peu de forensique, d'ADN, ce qui est assez logique, vu qu'une des flics, elle est de la scientifique. Mais on est aussi dans un vrai roman noir, avec des nantis qui se penchent intouchables, et ces petites gens qui ont un vrai sens de la solidarité. L'ambiance du roman n'est pas du tout plombante, c'est ce que tu me demandais, car en fait, Arnaud Sarr a beaucoup d'humour, et ses personnages, ou enfin plutôt l'auteur, donne de la dérision à ses personnages, qui permet comme une décompression dans les moments les plus tendus. Et puis, ce qui est vraiment le plus... C'est pas drôle, mais c'est le plus amusant, c'est les rapports conflictuels du flic avec la technologie. Ils sont proverbiaux dans le commissariat. Smartphone, GPS, Google Maps, email. Pour le flic, ce sont que des vues de l'esprit. Ce qui génère, vous l'imaginez, quelques gags, voire quelques énervements, quand il doit faire une poursuite avec simplement son vieux téléphone Nokia. Cependant, avec un certain bon sens, le commissaire dit un moment, lui qui ne veut absolument pas se mêler de tout ça, « Quand on inventera un réseau asocial, je serai le premier à m'y inscrire. »
Voilà, donc on est en plein renouveau du polar scandinave, le polar balte.
Voilà, c'est ça, ça change un petit peu. Je ne sais pas si les pays baltes sont vraiment en Scandinavie. Ça nous change un peu.
C'est légèrement en dessous, c'est en face.
Voilà,
hein,
c'est en face. Oui, de toute façon, ils sont très près de la Finlande. Puisque
voilà, il y a beaucoup de ferries qui
voilà,
passent.
Voilà, il y avait ce fameux ferry Estonia, qui était d'ailleurs un peu le sujet du premier roman.
Et donc, est-ce que tu nous as dégoté de la musique qui irait avec l'ambiance ou le pays dont tu viens de nous parler?
Eh bien oui, en fait, on va écouter de la musique d'un des plus célèbres compositeurs estoniens. Alors, ce n'est pas vraiment du rock comme on l'affirme dans le début de notre émission. Le compositeur s'appelle Arvo Part. C'est de la musique contemporaine, religieuse. Surtout sur le morceau que nous allons écouter qui s'appelle De Profundis. C'est le Hilliard Ensemble qui joue. C'est dirigé par Guy Donkremer. Ce n'est pas vraiment, vraiment gay, mais c'est vraiment très, très beau.
Thank you.
Allons.
Deuxième coin de la planète, je vais vous emmener au Japon, puisque je vais maintenant vous parler d'un roman qui s'appelle Cruel et le ciel. J'éviterai de vous dire le titre original, et son auteur en est Tetsuya Honda. C'est un roman publié par les éditions Akatombo, enfin plutôt l'atelier Atakombo, soyons précis, et c'est un roman traduit par Alice Sureau et Dominique Sylvain.
Dominique Sylvain, qui est aussi une écrivain,
auteur. Oui, c'est d'ailleurs en tant qu'écrivain qu'elle est bien connue de nos auditeurs. Mais après de multiples séjours au Japon, elle a fondé l'atelier Akatombo, qui est dévolu à la littérature japonaise, entre autres des romans policiers.
Et Akatombo, ça veut dire quoi? Je ne m'en souviens plus.
Alors, Akatombo, c'est la libellule rouge. Et ce n'est pas pour rien si cette collection s'appelle la libellule rouge, parce qu'au Japon, c'est le symbole de la littérature. En fait, c'est un insecte qui éclot en début d'automne. Et pour les Japonais, c'est un des moments les plus propices à se pencher sur un roman dans ce pays du soleil levant. C'est donc devenu le symbole du livre et de la littérature. Et ça permet à cette maison d'édition d'avoir une très belle charte graphique.
Cruel le ciel, donc c'est bien le titre que tu as dit tout à l'heure, c'est le deuxième roman de cet auteur. D'ailleurs, cet auteur, c'est un homme ou une femme?
Un homme. Oui, le premier avait pour titre Rouge et la nuit. On y découvrait une inspectrice, tout à la fois pêchue, pugnace, mais aussi fragile. Reiko Imekawa. Ici, un mystère profond entoure la découverte d'une main tranchée dans un minivan. À côté, pas loin, un garage plein de sang. Ça tend donc à montrer que le propriétaire de cette main, c'est le propriétaire du garage, donc Kenichi Takaoka, charpentier, patron d'une petite entreprise. D'ailleurs, la main est reconnue par son apprenti, Kosuke Mishima. La brigade de la lieutenante Reiko doit donc retrouver le reste du corps, le mobile, le ou les assassins. Tout en faisant d'ailleurs contre mauvaise fortune bon cœur, car ils doivent travailler en plusieurs équipes et Reiko doit travailler avec un de ses ennemis jurés, le groupe de Kusaka. Je vous épargne son prénom, les noms, il y a déjà beaucoup.
Oui, d'ailleurs, c'est un peu souvent les problèmes dans les romans asiatiques, et japonais particulièrement. On est un peu perdu avec les noms. Des fois, on est obligé de revenir un peu en arrière.
Oui, honnêtement, on ne peut pas dire oui. On peut se référer d'ailleurs, en début de roman, il y a la liste des fonctions et noms avant même que débute le roman. Mais c'est pas pire que dans un roman islandais ou polonais.
C'est vrai.
On s'habitue. La seule chose que je pourrais dire, c'est que je pense qu'il faut lire le roman en continu. Enfin, je ne veux pas dire qu'il faut lire d'une seule traite, en une seule nuit, en une seule journée. Mais c'est sûr qu'il ne faut pas l'abandonner des semaines, parce que je pense qu'après, on perdrait un peu le sens. Comme c'est un roman à l'enquête plein de rebondissements, eh ben ça risque pas. Bon, je vais vous dévoiler un petit peu plus de l'enquête. On a l'apprenti, Mishima, qui est en fait aussi un peu le fils adoptif du l'assassiné, du défunt Takaoka. Celui-ci s'en est occupé depuis que le père de Mishima, employé dans une entreprise de travaux publics, s'est suicidé. Et le père de Mishima, il s'est suicidé à cause de dettes de jeu. Et petit à petit, se dévoile un trafic des plus sordides avec une entreprise de travaux publics et en sous-main, la mafia.
En sous-main, c'est le cas de le dire, vu qu'on en a trouvé une.
Oui, c'est ça. Trafic où on a des contrats d'assurance vie qui permet après suicide de rembourser les dettes. Donc en fait, on fait se suicider les gens. Cerise sur le gâteau, ou arrête dans le sushi d'ailleurs, le cadavre n'est peut-être pas celui que l'on croyait au départ.
Il n'y aurait que juste la main.
Voilà.
C'est donc un roman policier, disons, enquête classique.
Oui, c'est vraiment d'une facture très classique, avec plusieurs équipes de flics qui enquêtent, des fausses pistes, des choses trappes, des rebondissements, jusqu'au twist final. Donc, je répète, tout cela est très classique, jusque d'ailleurs la description, dans la vie des, description de la vie des principaux protagonistes, particulièrement Reiko et son équipe. Mais c'est bien fait. Le rythme est bien dosé, roman bien écrit, et donc puisque je le trouve bien écrit, c'est qu'il est bien traduit. Roman qui se lit facilement, malgré ce qu'on disait tout à l'heure, le problème des noms japonais, qui parfois nous perdent un petit peu. Bref, je recommande vivement.
Donc nous recommandons, mais je me demande bien comment on peut dire un twist final en japonais.
Eh bien ce n'est pas dans cette émission que vous l'apprendrez. Ouais. On se retrouve dans quelques instants.